en commun Oscar Wilde, Maria Callas, Chopin, Jim Morrison, Molière, Édith Piaf et l'écrivain Honoré de Balzac. Ils sont tous enterrés au cimetière du Père Lachaise à Paris avec plein d'autres célébrités. Le Père Lachaise est le cimetière le plus visité au monde et aujourd'hui dans cet épisode d'Hola Frenchy, nous allons explorer ce fascinant cimetière parisien riche en histoire. La transcription de cet épisode, comme tous les autres, est disponible sur Patreon. Allez la télécharger, vous y trouverez aussi les images liées au contenu et une partie exercice de compréhension. C'est un très bon complément à ce podcast. Allez, c'est parti pour le Père Lachaise, le cimetière des légendes. En faisant des recherches sur ce fameux cimetière parisien, j'ai découvert que j'étais probablement tafophile. Alors, pas d'inquiétude, la tafophilie n'est pas une maladie, c'est lorsqu'on montre une passion ou un intérêt prononcé pour les cimetières. Décortiquons ce mot, donc tafophilie est composé du grec tafos, qui signifie tombe, donc l'endroit où reposent les morts, et philie, qui désigne l'amour. On utilise d'ailleurs souvent le suffixe philie à la fin des mots lorsqu'un mot implique une certaine fascination, comme la thanatophilie par exemple, qui est la passion pour ce qui est lié à la mort, et le suffixe phil implique une certaine attirance pour quelque chose. Par exemple, un francophile est quelqu'un qui aime le français, à ne pas confondre avec francophone, qui est quelqu'un qui parle le français. Donc effectivement, la passion de certains tafophiles peuvent les mener à visiter des pays ou des villes seulement pour y découvrir leur cimetière. Ce que je comprends tout à fait, il y a des cimetières fascinants dans le monde qui sont plus seulement des lieux, on va dire, de recueillement, mais presque des attractions touristiques, sans qui, d'après moi, ils en perdent leur charme. Alors le recueillement, se recueillir, globalement, c'est lorsqu'on s'isole du monde extérieur pour mieux penser, méditer, réfléchir. Et dans le cas des cimetières, c'est lorsqu'on se rend, qu'on va sur une tombe pour penser à la personne en question, se rappeler d'elle, des bons moments, se connecter en quelque sorte spirituellement à elle. Alors dans cet épisode, on va rester dans les cimetières français. Personnellement, il y a un cimetière qui m'a profondément marqué, c'est le cimetière américain de Colleville-sur-Mer dans la région de Normandie, dans le nord-ouest de la France, où sont enterrés près de 10 000 soldats américains tués lors du débarquement. Alors le débarquement de Normandie, c'est quand les Américains, durant la Deuxième Guerre mondiale, sont arrivés en bateau le 6 juin 1944 à la rescousse de l'Europe. C'est une date qu'on apprend à l'école et qu'on n'oublie jamais. Donc débarquer a deux sens. Débarquer des passagers ou des marchandises, c'est les faire sortir, quitter une embarcation. Et débarquer chez quelqu'un ou dans un endroit, c'est arriver à l'improviste quand personne ne s'y attend. Alors moi, personnellement, j'ai une affection particulière pour les vieux cimetières, ceux qui sont remplis de vieilles tombes abîmées, usées par le temps. C'est pas du tout le cas de ce cimetière. Ce cimetière est recouvert d'une pelouse verdoyante avec des lignées de croix blanches. Donc c'est un cimetière très atypique. D'ailleurs, je vous mettrai des photos dans la transcription. Donc voilà, je ne suis pas une touriste spécifique de cimetière, mais je dois reconnaître que les cimetières me fascinent et qu'avec mon mari, on les visite dès qu'on en a l'occasion. Et autant vous dire qu'avec le Père Lachaise, au Père Lachaise, on n'est pas déçu du voyage. Alors, ne pas être déçu du voyage, c'est une expression explicite qui signifie qu'on ne regrette pas d'être allé quelque part ou d'avoir fait quelque chose, qu'en clair, ça en vaut la peine. Et bien sûr, au Père Lachaise, c'est en raison du grand nombre d'artistes et de célébrités qui y sont enterrés. Donc, on dit enterrés et aussi inhumés lorsqu'on met un mort en terre avec les cérémonies d'usage. Le cimetière du Père Lachaise n'est pas le seul cimetière parisien intramuros, donc c'est-à-dire à l'intérieur de Paris, et c'est pas le seul qui compte de nombreuses personnalités. Il y a par exemple le cimetière de Montmartre, dans le quartier du Sacré-Cœur, qui compte les compositeurs Berlioz et Offenbach, les écrivains Stendhal et Théophile Gautier, le peintre Degas, le cinéaste français Truffaut, la chanteuse Dalida, avec un superbe mausolée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dalida, c'est une chanteuse d'origine égyptienne qui a beaucoup chanté en français et dans d'autres langues. Elle était polyglotte. Elle est absolument bouleversante. Elle a eu un destin tragique. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur elle si vous ne la connaissez pas, sur sa vie. Voilà, donc c'est un cimetière qui vaut aussi la visite. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il faisait mention d'une famille assez atypique qui est une famille de bourreaux, les bourreaux Sanson. Donc un bourreau, hein, c'est quelqu'un qui exécute un ordre de justice, donc une personne qui va torturer et souvent tuer, hein, à la hache, au poing et plus tard à la guillotine, comme on le voit dans les vieux films du Moyen-Âge. Donc il y a une famille de bourreaux qui est enterrée, hein, et une famille de bourreaux qui a servi du XVIIe siècle au XIXe siècle. Donc apparemment, c'était une profession qui était quand même considérée pour avoir le droit d'être enterrée dans un cimetière. Donc le Père Lachaise n'est pas le seul cimetière, mais c'est le plus grand de la ville et l'un des plus célèbres du monde et le plus visité avec 3 millions et demi de visiteurs par an. Il est toujours actif, hein, donc ce qui veut dire qu'on continue à enterrer des gens. Alors où il se trouve? Il se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Paris est divisé en 20 arrondissements. Il s'étend sur 44 hectares, 15 km d'allées, au milieu de 5 000 arbres et 77 000 tombes. Donc pour moi, qui suis allée déjà plusieurs fois, c'est un véritable musée à ciel ouvert. C'est très agréable de s'y promener. Alors d'où vient le nom de Père Lachaise? C'était le surnom de François d'Aix de Lachaise, qui était le prêtre confesseur du roi Louis XIV. Alors, en parlant de prêtre, avant de devenir un cimetière, le terrain lui-même a une longue histoire de lutte et de combats, principalement religieux. Il est devenu officiellement un cimetière en 1804. Alors, une chose intéressante à noter est qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas le droit, l'honneur d'être enterré dans un cimetière, et c'est Napoléon qui a changé les choses en décrétant que chaque citoyen avait le droit d'être enterré, quelle que soit sa race ou sa religion. Donc, ce qui était plutôt arrangeant pour, on va dire, les mécréants, ceux qui n'adhéraient pas à la religion, les excommuniés, les juifs, les protestants, les comédiens. Et ouais, on ne jugeait pas que les acteurs, à l'époque, méritaient d'être enterrés dans un cimetière, les prostituées et les pauvres. Passons maintenant à qui est enterré dans ce cimetière. Alors, je ne vais pas pouvoir vous citer tout le monde, il y a beaucoup de personnalités, mais je vais vous en citer quelques-uns, quelques-unes, hein, si on parle de personnalité, et mentionner les plus belles tombes ou les plus insolites. Alors en premier, les tombes d'hommes de lettres connus, Marcel Proust, Apollinaire, Molière, qui est le Shakespeare français, hein, quand on parle du français, on dit que c'est la langue de Molière, Jean de La Fontaine, qui écrivait des fables amorales, hein, qu'on apprend à l'école et qu'on n'oublie jamais, et qui met souvent en scène des animaux, Honoré de Balzac et Oscar Wilde. Après, on a les tombes de peintres légendaires, tels que Théodore Géricault. Alors lui, il a un tombeau très imposant sur lequel ont été sculptés trois des plus grands tableaux du peintre, dont le radeau de la Méduse. Alors le radeau, je vous le rappelle, c'est une embarcation de fortune en bois. Là encore, je vais vous mettre les photos dans la transcription. On a également Delacroix et Pissarro. Après, pour les compositeurs ou chanteurs célèbres, on a Édith Piaf, Chopin, Maria Callas et la tombe de Jim Morrison, qui, je vous rappelle, est mort dans une boîte, dans une discothèque parisienne. Alors, c'est une tombe très simple, mais c'est la plus visitée du Père Lachaise. Puisqu'on parle de la tombe de Jim Morrison, on va parler des tombes insolites et de certains rituels atypiques qui ont lieu autour de celle-ci. Dans le cas de Jim Morrison, pour lui rendre hommage, ses visiteurs ont l'habitude d'abandonner des bouteilles de whisky ou des mégots de cigarettes, donc des morceaux de cigarettes terminés, finis, des mégots ou d'autres objets en rapport avec la vie tumultueuse du chanteur. Il y a aussi un arbre en face de sa sépulture où on a coutume de coller des chewing-gums, donc ça fait une œuvre d'art plutôt atypique. Autre tombe insolite est la tombe d'Oscar Wilde. Alors la tombe d'Oscar Wilde est un énorme bloc de pierre qui représente un majestueux sphinx ailé, donc un sphinx avec des ailes. Et à une période, le tombeau a fait l'objet d'un rituel un peu particulier. Alors il faut savoir que l'écrivain avait été mis en prison à son époque, en son temps, pour un baiser homosexuel et ses admirateurs ont voulu faire honneur à cet événement en déposant un baiser au rouge à lèvres sur sa tombe. Au fil du temps, le sphinx a été recouvert d'une énorme couche écarlate, ce qui a fini par l'abîmer, par le détériorer. Donc on y a installé des grandes vitres de plexiglas autour, hein, de la sculpture pour la protéger. Une autre tombe insolite est la tombe de Victor Noir. Alors Victor Noir, c'est un journaliste qui a été tragiquement tué à 22 ans très jeune, hein, sous le Second Empire, et à l'époque, sa mort avait suscité une très forte indignation populaire. Donc pour lui rendre hommage, un sculpteur l'a représenté dans une sculpture allongée qui est très réaliste. Donc effectivement, il lui a sculpté un entrejambe, un membre sexuel très protubérant, et d'après les rumeurs, se frotter à cette partie intime hein, favoriserait la fertilité chez les hommes ou pour les femmes développerait les chances d'avoir un bon amant. Donc une tombe, une sépulture plutôt originale, atypique. On a également Allan Kardec, qui est le père de la doctrine spirit. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est méconnu en France. Par contre, c'est une icône au Brésil et en Amérique du Sud. Hein. Personnellement, j'ai pas mal de familles au Brésil et une bonne partie d'entre elles est spirit. Donc, la particularité de cette tombe, c'est qu'en plus de reposer sous des dolmens, elle est constamment ornée de fleurs. J'ai découvert cette tombe totalement par hasard, la première fois qu'on s'est rendu au Père Lachaise. Et c'est vrai que ce qui nous avait surpris, c'était le nombre de fleurs qu'il y avait sur cette tombe. Donc on s'en était approché et on avait vu qu'elle appartenait à Allan Kardec. Et on ignorait à l'époque qu'il était enterré ici. Donc c'est un souvenir mémorable. Alors, et finalement, pour terminer les tombes insolites, je parlerai du tombeau d'Abélard et Héloïse, les amants du Moyen-Âge. Alors, quand ils se rencontrent, Héloïse est une jeune fille de 16 ans et Pierre Abélard est son professeur. Ils tombent tout de suite éperdument amoureux, mais l'oncle d'Héloïse refuse qu'ils s'unissent. Alors, pour pouvoir vivre cet amour, Pierre et Héloïse, qui est alors enceinte, s'enfuient. Mais en apprenant qu'ils se sont mariés, l'oncle devient furieux et fait poursuivre Abélard pour le castrer. Donc, sous l'ordre de son mari, Héloïse, à 18 ans, entre au couvent et devient sœur. Donc, malgré sa voix, elle ne l'oublia jamais et elle continua à lui écrire des lettres d'amour brûlantes toute sa vie jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Et en 1817, leurs corps ont été transférés au cimetière du Père Lachaise, si bien que chaque année, leurs tombes sont fleuries par des milliers de fleurs qui sont apportées par les couples d'amoureux du monde entier en souvenir de cette union. C'est ainsi que se clôt le chapitre sur le cimetière du Père Lachaise, mais je ne peux pas terminer cet épisode sur les cimetières sans parler du Panthéon, qui est l'un des monuments les plus incroyables de Paris. Donc le Panthéon, c'est un mausolée, un monument funéraire de grande dimension, et c'est un peu pour les personnalités la consécration post-mortem. Donc il y a certaines tombes qui sont transférées d'un cimetière au Panthéon, comme c'est le cas d'Émile Zola. Donc originellement, le Panthéon était prévu pour accueillir une église, mais à la Révolution française, il n'était plus question de faire honneur à une quelconque sorte d'autorité ou d'oppression. Donc le monument est devenu un mausolée pour les personnalités qui ont marqué l'histoire de la France. Alors, qui y est enterré? On a des personnalités politiques, alors elles ne vous seront pas toutes familières, mais elles sont très importantes pour la France et les Français. Léon Gambetta, Jean Jaurès, qui est un homme politique qui a vaillamment lutté pour que la Première Guerre mondiale n'ait pas lieu, mais il a été assassiné et son assassinat a précipité cette guerre. On a Jean Monnet, Simone Veil, qui a beaucoup fait pour les femmes. On a des résistants, donc des personnes qui ont résisté aux Allemands et qui ont lutté contre les collaborateurs, des personnalités comme Jean Moulin, qui est très respecté en France. Des écrivains, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, André Malraux, Alexandre Dumas, qui a écrit Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, Le Comte de Monte Cristo. On a également des scientifiques, comme Pierre et Marie Curie. Et il y a une personnalité que je me dois de mentionner, une personnalité atypique, qui a fait son entrée en novembre 2021, donc ça fait pas très longtemps, c'est Josephine Baker. Josephine Baker est devenue la 81e personnalité à être panthéonisée, donc c'est-à-dire à intégrer le Panthéon, et seulement la 6e femme. Alors, qui était Josephine Baker? C'était une chanteuse, danseuse, actrice d'origine afro-américaine qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui, par la suite, est venue en France. Donc, en France, c'est vraiment une figure emblématique des années dites folles, donc cette période pleine d'euphorie d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui fait de Josephine Baker un personnage tellement intéressant? C'est qu'elle ne faisait pas seulement dans le divertissement, parce que bien sûr, elle est connue en France pour ses danses pleines d'exotisme, ses tenues légères et sa bonne humeur contagieuse, mais elle ne faisait pas seulement dans le divertissement, elle luttait également activement pour les droits civiques aux États-Unis. En ce qui concerne la France, elle a pris la nationalité française et lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est vraiment impliquée, elle a lutté du côté des Français. C'est donc une figure de la résistance française, elle était un peu espionne et elle a d'ailleurs été décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre pour ses services, deux distinctions vraiment honorables en France. Donc voilà, elle a eu droit à un grand discours de Macron hein, et qui a dit « Ma France, c'est Joséphine ». C'est ainsi que se termine l'épisode sur le cimetière du Père Lachaise. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur Patreon où je vous invite à vous abonner. Vous pourrez accéder aux transcriptions en plus, bien sûr, de soutenir mon travail. Buy me a coffee or a glass of wine, c'est également possible. Cela fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt au prochain épisode.